Salut, bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 15e épisode est Tess, plus connue sous le nom de Yes Tess, éducatrice à la sexualité positive. Dans cet épisode, on parle d'éducation à la vie affective et sexuelle, des clés pour parler sans tabou et de badane. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Tess.
Bonjour Alison.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Tess Sylvanderac. Je suis éducatrice certifiée en santé sexuelle. J'ai grandi puis j'ai fait ma scolarité en Belgique, mais ça fait maintenant 6 ans que je suis à Vancouver au Canada. Et puis, je travaille depuis plusieurs années dans les écoles pour offrir des ateliers sur la sexualité puis travailler avec les jeunes.
Comment tu as commencé ?
Comment est-ce que j'ai commencé ? En fait, j'ai un master déjà en études des genres, donc c'est l'intérêt sur la santé sexuelle, la santé reproductive, ça a toujours été quelque chose sur lequel j'ai travaillé depuis des années. Les premières années où j'étais ici à Vancouver, j'ai pas mal travaillé dans les écoles. J'ai travaillé sur des programmes de promotion de la santé, puis promotion des relations saines chez les jeunes. Et on parlait aussi de santé sexuelle. Puis j'avais envie d'en parler plus. C'est quelque chose qui m'a toujours fort intéressée. Et je voulais vraiment m'assurer d'être formée. Je voulais assurer que j'offrais des informations qui étaient fondées sur la science. Donc, je me suis formée en tant qu'éducatrice en santé sexuelle. Donc, j'ai fait une certification pour pouvoir offrir ce contenu dans les écoles. Et ça fait maintenant presque 2 ans que je fais ça à plein temps.
Sur ton site internet, tu parles d'éducation à la sexualité positive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie ce terme?
Bien sûr. En fait, ça vient du terme en anglais de « sex positive », donc la positivité face à la sexualité. Et donc, ça fait une référence à une approche qui va célébrer la sexualité dans toutes ses formes, plutôt que d'en faire un tabou ou un sujet honteux. Donc, c'est aussi l'idée que quand on parle de sexualité, bien sûr, on va faire de la prévention, on va parler de comment se protéger, prendre soin de son corps, mais surtout aussi, on va parler du plaisir, parce que la sexualité et le plaisir, ben, ça va ensemble.
C'est un sujet qui est, je trouve, encore fort tabou dans nos sociétés. Toi, tu parles depuis un autre continent que le mien, donc moi je suis depuis la France, et est-ce que tu vois des différences? Tu dis que tu as étudié en Belgique, donc entre la mentalité en Belgique, plutôt Belgique-France que l'Europe plus globalement, et là où tu es.
Mais je vois des différences, c'est sûr que qu'ici en Colombie-Britannique déjà, l'aspect de l'éducation à la santé sexuelle, c'est quelque chose qui est intégré à l'intérieur du curriculum de la santé dans les écoles. Mais en même temps, c'est vrai qu'ici, comme je suis en Colombie-Britannique, qui est une province anglophone, hein, la majorité des provinces au Canada sont anglophones, mis à part le Québec. Je travaille dans les écoles francophones d'une province qui est anglophone. Donc, la majorité des francophones avec qui je travaille, c'est des francophones soit du Québec, soit des francophones du reste du monde. Donc, en même temps, je suis pas mal dans le travail avec des francophones qui viennent de France, qui viennent de Belgique, qui viennent de plusieurs différents pays d'Afrique, qui viennent de Suisse, qui viennent du Québec. Donc, il y a aussi ce mélange de culture puis d'approche. Et donc, je suis un petit peu entre les deux mondes, même ici à Vancouver.
Pour toi, pourquoi est-ce qu'il est important d'aborder ces sujets dès l'école maternelle?
Parce que je pense qu'à partir de l'école maternelle, quand on commence très tôt, on normalise le sujet. Avec des enfants qui sont petits, ils vont poser des questions sur la sexualité comme ils vont poser des questions sur n'importe quoi d'autre. Donc, ils vont nous poser des questions sur comment on fait les bébés. C'est de la curiosité de comment fonctionne le corps humain. Ça va être de la même façon qu'ils vont se poser des questions de c'est bizarre qu'ils vont manger quelque chose, ça rentre d'un côté puis ça sort différemment de l'autre côté. Ils se posent des questions de comment fonctionne leur système digestif. C'est juste que nous, en tant qu'adultes, quand on entend le mot sexualité, c'est lié à un sujet d'adulte, à des choses qui sont faites entre grandes personnes. Ça nous fait peur parce qu'on projette en fait cette idée de la sexualité sur les questions des enfants, alors que les enfants essaient simplement de comprendre comment fonctionne mon corps, comment est-ce que je suis arrivée ici, peut-être éventuellement qu'ils voient un parent qui est enceinte. Donc, ça dit, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que maman a un gros ventre, par exemple? D'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre le monde autour d'eux.
Je rebondis sur une phrase que tu as dit un tout petit peu plus tôt, parce que souvent, j'ai l'impression que pour retirer le tabou de l'éducation à la vie affective et sexuelle, alors on ne parle que de l'aspect biologique, et là tu as ajouté la notion de plaisir. Et alors moi, dans l'expérience que j'ai eue, c'était ok de parler des parties du corps avec les enfants, mais alors d'aborder la notion du plaisir par rapport à l'éducation à la sexualité, surtout avec les plus jeunes, c'était presque, ça me semble impensable.
Ouais, après, je pense que de nouveau, on va aborder le sujet d'une façon qui est appropriée à l'âge. Bien sûr, je vais pas avoir les mêmes conversations avec des enfants à la maternelle que je vais avoir des conversations avec des élèves qui sont secondaires. Mais on va approcher le plaisir en parlant du fait que la santé sexuelle, la sexualité des enfants, c'est quoi? C'est la découverte de leur propre corps. Donc, dès qu'ils naissent, les enfants naissent avec des parties génitales, ils découvrent ces parties génitales, ils découvrent en fait la sensation du toucher, puis le plaisir du toucher, pas forcément le toucher de leur partie génitale, mais aussi le toucher en tant qu'être humain. Le toucher, c'est quelque chose qui est important depuis la naissance, on a besoin d'être touché, donc on est conscient du plaisir associé au toucher. Et puis, ben, on découvre ses propres parties. Les enfants entre 9 et 15 mois découvrent l'autostimulation, donc ils commencent à toucher leur propre partie génitale. Parce que ben, ça les apaise en fait, hein, comme ça va être comme sucer son pouce, finalement, c'est découvrir son corps. Quand je parle à des jeunes enfants, on va parler des bons termes pour leur partie génitale, donc on va utiliser les vrais mots, un pénis, une vulve, un vagin, etc. Et puis aussi comprendre que c'est des endroits qui sont sensibles au toucher, puis c'est OK de toucher ses propres parties génitales, c'est normal d'avoir du plaisir en touchant ses propres parties génitales. Cependant, là, on explique aussi aux enfants la différence entre un endroit privé puis un endroit public. Donc, on a le droit de toucher ses propres parties, mais on ne va pas faire ça au milieu du salon, on ne va pas faire ça à l'école, on ne va pas faire ça dans la cour de récré. On identifie quels sont les endroits privés. Donc, on va parler du plaisir, bien sûr. Aussi, on va parler de l'aspect de reproduction, mais souvent, les parents, quand ils abordent la question de comment on fait les bébés, souvent, ils vont dire, ah, ben, c'est deux grandes personnes qui s'aiment très fort. Ben, oui, c'est vrai, dans pas mal de cas, ça va être ça, c'est deux grandes personnes qui s'aiment très fort, donc qui échangent quelque chose ensemble qui apporte aussi du plaisir.
Je me souviens de moi, ma faible éducation à la sexualité que j'ai reçue dans mon parcours scolaire. Ça devait être autour des 14 ans. Et on n'abordait pas du tout cette question de plaisir. Mais alors, vraiment, pas du tout. Et j'ai cette intime conviction que si on avait abordé cette question du plaisir, on aurait pu peut-être, de un, aborder beaucoup plus facilement la question du consentement. Et surtout, j'aurais eu beaucoup moins de travail, moi, derrière, pour déconstruire ce qu'on m'avait mis en tête par rapport à cette gêne de certaines parties du corps, à cet inconnu dans lequel on se met, et donc où on se met, il me semble, en danger parce qu'on ne connaît pas, et puis aussi pour son bien-être, quoi.
Complètement. Ben, en fait, déjà, je pense qu'une question qu'on n'aborde pas, c'est la masturbation. Je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on va parler de comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce que les types de contraceptifs qu'on peut utiliser, les différents types d'infections transmissibles sexuellement qui existent. Puis on ne parle pas aux enfants aussi de simplement la masturbation, puis que c'est quelque chose de complètement naturel et normal d'avoir envie de découvrir son propre corps. Et puis, ben, autant on sait que dans notre société, c'est quelque chose qui est comme assumé que les garçons se masturbent, autant on n'en parle pas aux jeunes filles non plus. On va pas en parler à des personnes avec un clitoris puis expliquer comment fonctionne le clitoris. J'ai des présentations avec des élèves en cinquième, en sixième primaire, où on parle du clitoris, puis il n'y a pas beaucoup d'élèves encore qui ont entendu ce mot, qui savent exactement à quoi ça sert. Donc aussi de célébrer le fait que nos propres corps nous apportent du plaisir, avant même d'aborder le fait qu'on peut trouver du plaisir à deux ou à plusieurs personnes, qu'on peut trouver du plaisir avec un partenaire ou une partenaire, de comprendre comment son propre corps fonctionne. Et puis ensuite, effectivement, on va parler des types de contraceptifs, on va parler de comment se partagent éventuellement les infections transmissibles sexuellement. Et là, on va amener ben, l'aspect du plaisir parce qu'on sait que pourquoi est-ce qu'on utilise des contraceptifs, pourquoi est-ce qu'on essaie de se protéger des IST, c'est parce que ben, on veut avoir un rapport sexuel pour le plaisir, pas pour la reproduction. Donc, on doit en parler. Ça fait partie de quelque chose qui est important aussi, comme tu dis, avec le consentement. C'est-à-dire, on n'a pas un rapport sexuel parce que, ben, on pense que tout le monde est en train de le faire, puis on a le bon âge pour le faire. On ne va pas le faire parce qu'on pense que c'est ce que l'autre personne veut, puis c'est ce que l'autre personne attend. On le fait parce que nous, on a envie, puis c'est quelque chose qui nous plaît. Puis on va communiquer aussi nos besoins, notre plaisir, ce qui nous apporte du plaisir, on va communiquer avec l'autre personne. Puis tout ça fait partie du consentement aussi.
Et puis là, en écoutant ce que tu dis, j'ai aussi cette impression que ce sujet qui est actuellement encore tabou, en fait, est un sujet comme les autres et que ce sont les adultes qui lui donnent cette connotation malsaine. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, une métaphore que j'aime bien utiliser, puis je trouve que ça résonne souvent bien avec les parents, c'est de dire, et si on approchait l'idée de la conduite, par exemple, donc apprendre à conduire de la même façon qu'on approche l'éducation à la santé sexuelle. C'est vrai que bon, on peut avoir son permis de conduire à partir de 18 ans, je pense. Puis on va faire des cours avant. Mais c'est pas seulement, genre, à 18 ans que tu vas avoir ton permis de conduire. Jamais il y a un parent qui va attendre que l'enfant ait 18 ans, puis lui donner les clés de la voiture et dire, ben, mets bien ta ceinture, hein. On s'assure qu'il ait bien mis sa ceinture, OK? Fais attention sur la route. On lui a jamais parlé. Il a jamais vu de voiture. Puis la seule chose qu'il a vue éventuellement sur Internet, c'est Fast and Furious. Ça ne nous passerait jamais par la tête de laisser des enfants conduire des voitures sans avoir aucune idée de ce qu'ils font. Si on approchait la santé sexuelle de la même façon qu'on approche la conduite, mais depuis qu'on est tout petit, hein, les enfants, même si les parents n'ont pas de voiture, ils apprennent le code de la route. Ils apprennent que ben, quand c'est vert, on peut traverser, quand c'est rouge, on s'arrête. Ils apprennent qu'il faut mettre la ceinture. Ils observent les parents conduire aussi, éventuellement. Donc, ils comprennent certaines idées du code de la route en regardant les parents phares. Ils vont comprendre comment fonctionne une voiture. Ils vont poser des questions. C'est pas pour ça qu'on va donner les clés de la voiture à un enfant de 12 ans, certainement pas. Mais on apprend au fur et à mesure. Et donc, l'éducation à la santé sexuelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va poser les bases pour avoir une conversation qui va évoluer tout au cours de la vie.
Je me demandais à qui s'adressent tes formations.
Pour le moment, je travaille principalement dans les écoles. Donc, je travaille directement avec les enfants. Je vais dans des écoles où on me fait venir de la maternelle à la 12e année ici, donc à la 6e année secondaire. Et puis, je vais aborder les différents sujets avec les élèves, comme j'ai dit, ben, de façon qui est appropriée à chaque âge. Je travaille aussi avec les parents et les familles. Donc, généralement, quand je fais une intervention dans une école, j'ai une présentation avec les familles avant les interventions pour avoir une discussion avec les parents, leur présenter de quoi je vais parler, parce que je pense que c'est important pour les parents de savoir de quoi je vais parler à leurs enfants, mais aussi que eux puissent se préparer à continuer la conversation à la maison, puis avoir la conversation un petit peu comme on a aujourd'hui sur le podcast, c'est-à-dire de comprendre aussi l'idée autour de la santé sexuelle, l'éducation à la santé sexuelle, puis de dédramatiser cette éducation à la santé sexuelle. Puis, la dernière chose que je fais de plus en plus aussi, c'est de la formation directement pour les professionnels de l'éducation. J'ai fait des formations pour les étudiants qui vont devenir des enseignants, des enseignantes, donc les futurs enseignants-enseignantes. Des formations pour les éducatrices et les éducateurs en petite enfance. Parce que c'est vrai que là aussi, ben, il faut qu'on puisse être formé à comprendre comment répondre aux questions. Et puis, les formations avec les personnes qui s'occupent des enfants en général.
D'accord. Et de quelle manière est-ce que les formations que tu proposes s'insèrent dans les programmes?
Alors, ici, en tout cas en Colombie-Britannique, comme je disais, ça fait partie du curriculum de l'éducation en santé. Par exemple, en maternelle, en première année, ce qui va être dit, c'est de connaître les bons noms pour les parties génitales. Ben, les parties, ce qu'ils appellent les parties privées, donc ça va être les parties génitales, puis les autres parties du corps. Donc, d'avoir les bons termes pour ça, de savoir quelles sont les sources d'information. Donc, on va évoluer ces connaissances au fur et à mesure. Et pour chaque année, il y a des compétences qui doivent être acquises au niveau de la santé sexuelle. Malheureusement, comme ça fait partie du curriculum de santé, et puis que généralement le curriculum de santé, ben, c'est le curriculum de sport, au final, hein, c'est les enseignants, les professeurs de sport qui le donnent, tous les enseignants ne sont pas formés à offrir ce contenu. Surtout ici en particulier, on fait venir des enseignants, enseignantes francophones de travers le monde. Ben, la formation de prof de sport en France, ben, elle va peut-être pas forcément inclure l'éducation à la santé sexuelle. Donc, c'est là qu'on fait aussi beaucoup venir, ben, des formations puis des éducatrices comme moi à la santé sexuelle pour faire des interventions dans les écoles.
D'accord, donc il y a quand même un programme avec des grandes lignes directrices à suivre dans le cadre scolaire, quoi.
Complètement.
Toi, personnellement, en tant que formatrice, vers quoi est-ce que tu désires amener l'école? Quelle mission est-ce que tu te donnes?
Mais je pense que c'est que j'apprécie quand je viens dans une école et puis que je peux rencontrer les élèves, surtout depuis qu'ils sont plus jeunes, c'est de faire le premier pas vers la normalisation de ces conversations. Généralement, si je fais une intervention, je pense que les enseignants, les enseignantes apprécient parce qu'ils disent que j'ai une aisance d'avoir ces conversations puis de répondre aux questions qui est pas forcément innée chez tout le monde. Quand on a un élève de cinquième année qui pose une question sur la fellation, mais peut-être que la plupart des personnes vont avoir une réaction de ne pas savoir comment réagir. Donc, ils apprécient d'avoir une personne extérieure qui peut prendre un peu de recul par rapport à ce type de questions. Mais je pense aussi de commencer ces conversations, d'avoir quelqu'un qui a ouvert le sujet de façon sans tabou, puis a normalisé la conversation dans la classe, ça peut permettre les enseignants, les enseignantes ensuite de continuer ces conversations, d'avoir une plus grande facilité à ramener le sujet, puis de pouvoir répondre aux questions aussi que les élèves vont avoir. Parce que je pense que je viens faire une intervention peut-être sur 1 heure. Parfois, si j'ai de la chance, je peux aller voir 2 heures. Ben, c'est certain que je vais leur demander à la fin s'ils ont des questions. Alors, parfois, ils ont des questions, mais les questions, elles vont leur venir plus tard. Là, je leur donne tellement d'informations sur 2 heures. Il y a le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils gèrent l'information. Puis parfois, j'ai même des conversations avec les parents le lendemain qui me disent, oh là là, on en a eu des conversations à la table, au souper, parce que, ben, ils ont réexpliqué tout ce qu'ils avaient entendu en classe.
Oui, je veux bien croire que peu importe l'âge auquel tu interviens, ça doit susciter pas mal de questions aux élèves. Et à la fois, je me demande en effet comment après, en tant que professionnel, on rebondit quand on n'est pas formé, quoi, quand on n'a pas de clé.
Je pense que, il y a quelques étapes que je conseille généralement aux familles, puis que je conseille aussi aux professionnels, aux éducatrices, aux éducateurs. C'est que c'est vrai que ça peut nous, il y a des questions qui peuvent nous surprendre. On ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc, si on a un élève qui vient, qui nous pose une question, comme j'ai dit, ça peut être, imaginons sur la fellation, par exemple. C'est quoi une fellation? Ils ont entendu un mot. La première chose, ça va être de pouvoir autant que possible de contrôler sa réaction, de contrôler sa réponse, j'ai envie de dire, ben, non verbale presque, hein, donc la verbale et non verbale, et d'accueillir la question, de dire, ben, je suis contente que tu viennes me voir, que tu me poses cette question. Parce qu'en tant que parent, en tant qu'enseignant, on veut encourager les enfants à venir nous poser des questions, puis d'être reconnus comme cette source d'information. Donc, on va remercier l'enfant de dire, ben, je suis contente que tu viennes me voir, que tu te poses des questions, de savoir comment les choses fonctionnent. J'ai envie de dire, avec les plus jeunes, généralement, ce que je vais faire aussi, c'est de clarifier la question. Parce que souvent, les enfants vont entendre des mots, vont entendre certaines choses, et on veut clarifier ce qu'ils ont compris. Peut-être que le mot fellation, ils l'ont entendu dans un contexte complètement différent, puis ils ont compris autre chose. Donc, de dire, tiens, où est-ce que tu as entendu ce mot? Qu'est-ce que toi, tu penses que ça veut dire, ce mot-là? Premièrement, aussi, ça va aussi me donner l'information sur ben, où est-ce que l'enfant va chercher de l'info. Est-ce qu'il a entendu ça dans la cour de récré? Est-ce qu'éventuellement, il a vu ça sur un ordinateur, puis il y a quelque chose qui est arrivé sur l'écran, puis là, on peut parler justement de la protection sur les médias, puis sur Internet. Donc, de savoir où est-ce qu'ils ont entendu ça. Et puis, si jamais vraiment on se dit, ben là, j'ai pas les clés pour répondre à cette question tout de suite, de dire, c'est une très bonne question, tu sais quoi? Je vais pas te répondre tout de suite, ou alors je vais chercher un peu plus d'informations sur le sujet, je te reviendrai dessus. Même si on sait pas exactement comment répondre à la question. On va prendre un peu de temps, on va prendre un peu de recul, on va réfléchir, on va éventuellement faire une recherche sur Internet si on a besoin, et puis on va retourner vers l'enfant. On ne va pas laisser la question sans réponse. On va retourner vers l'enfant en disant, tu sais, l'autre jour, tu m'as posé une question sur ce mot que tu avais entendu, puis j'ai pas eu l'occasion de te répondre tout de suite, mais là, j'aimerais qu'on en reparle, de donner une réponse à l'enfant, puis de s'assurer qu'on ait bien répondu à sa question, et aussi de savoir, de dire, ben, si tu as une autre question, n'hésite pas à revenir me voir. Le plus on va se positionner comme des personnes de confiance, le plus on sait que les enfants vont venir nous voir s'ils ont des questions plutôt que d'aller chercher leurs réponses sur Internet. C'est la dernière chose qu'on veut.
Oui, ça, je veux bien croire. Tu l'as déjà un peu expliqué, mais est-ce que concrètement, tu pourrais nous expliquer comment se déroulent les formations que tu proposes en classe maternelle?
Alors, dans les classes maternelles, on va parler de plusieurs choses. Donc, comme j'ai dit, la première chose qu'on va aborder, c'est de bien s'assurer que tous les enfants connaissent les bons mots pour leur partie intime, pour leur partie génitale. J'ai quelques poupées, hein, que je prends avec, qui ont des poupées anatomiques avec des parties génitales. Et puis, donc, on va revoir le mot pénis, le mot testicule, le mot scrotum, le mot vagin et vulve aussi, comprendre la différence entre vagin et vulve, parce que parfois, ils connaissent le mot vagin, pas forcément le mot vulve. Et puis, comprendre que, ben, ce sont des parties du corps qui sont privées. C'est-à-dire que c'est des parties du corps qui nous appartiennent que à nous et qu'il y a que nous qui avons le droit de les toucher. Alors parfois, s'ils sont vraiment petits, on va aussi expliquer que oui, parfois on a besoin que le docteur, la médecin touche ces parties ou voit ces parties s'il y en a un problème à ces parties-là. Okay? Donc il y a certains contextes où c'est OK. Puis on va jamais faire ça quand on est tout seul, quand on est toute seule. On va toujours avoir la supervision d'un adulte, de nos parents, de quelqu'un de la famille qui est là pour superviser. Généralement, quand je vois les enfants maternels, la plupart sont assez grands pour se laver tout seul, mais de dire que parfois, si on a besoin d'aide, alors on peut demander de l'aide à nos parents pour nettoyer nos parties génitales. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a personne qui a le droit de les toucher. Il n'y a que nous qui avons le droit de les toucher. Les toucher nous-mêmes, comme j'ai dit, ça, c'est OK. Hein. Donc, on va parler du fait que découvrir sa propre partie, c'est tout à fait normal et naturel. On identifie quels sont les endroits privés pour le faire. On va aussi en profiter pour parler de la prévention des abus. Donc, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais si jamais il y a une personne qui touche mes parties privées, qui touche mes parties intimes? Donc là, c'est bien identifié que si jamais ça arrive, ben, on dit qu'on ne veut pas, on dit stop, on a le droit de pousser la personne si c'est pour se libérer. Et puis, on va trouver nos adultes de confiance. On va identifier avec les élèves les adultes de confiance. Et un point qui est important pour moi aussi, c'est de dire, si jamais tu vas trouver un adulte et que cet adulte ne fait rien pour t'aider, alors on va aller trouver une autre adulte. On ne va pas juste le dire à une adulte si l'adulte ne fait rien. Donc ça, c'est aussi important de dire, on ne va pas juste le dire une fois, on veut vraiment trouver de l'aide. Et puis, on va parler aussi du consentement entre eux, entre les jeunes et puis avec la famille. Donc, c'est sûr que ben, on n'a pas toujours envie de faire un câlin, on n'a pas toujours envie de faire un bisou. Ça peut être entre les camarades de classe, mais aussi le point important de dire, ben, si je n'ai pas envie de faire des bisous ou de faire un câlin à des membres de ma famille, je ne suis pas obligée. Et tout à l'heure, on parlait des différences culturelles. Je pense que c'est une différence culturelle assez forte, peut-être avec l'Europe, avec la France et la Belgique en tout cas. C'est l'idée que ben, il faut faire un bisou pour dire bonjour. Et que si on ne le fait pas, c'est mal poli, que voilà, ça fait partie de la culture. Je comprends l'aspect culturel et en même temps, je pense que c'est à l'enfant de découvrir avec quoi il est confortable. Je me souviens être enfant, puis j'avais pas du tout envie de faire des bisous à certaines personnes ou que certaines personnes me fassent des bisous. C'était vraiment étrange. Donc, de comprendre qu'ils sont en charge de leur propre corps et puis qu'ils ont le droit de dire non, même à des adultes et même à des adultes de leur propre famille. On va aussi revoir, comme j'ai dit, les bases de la reproduction. Donc, expliquer de façon simple, en mots simples, comment on fait les bébés, hein, comment est-ce que ça fonctionne. On va insister aussi sur le fait simple que les bébés, ça grandit pas dans le ventre, mais ça grandit dans l'utérus. Parce que c'est ça aussi parfois qu'il y a une confusion un petit peu entre le système digestif et le système reproducteur. Parce que les enfants comprennent pas pourquoi est-ce qu'on grandit dans le ventre, mais le ventre, c'est aussi là où il y a la nourriture. Donc, on va séparer ces deux idées. Et puis, un dernier point qui est important aussi quand on parle de reproduction, c'est que c'est pas seulement l'histoire de ben, papa et maman qui s'aiment très fort. Il y a d'autres façons de faire des bébés. Et puis surtout, il y a plein de différents types de familles. Les familles, c'est pas juste papa, maman et les enfants et le chien. On va revoir les différents types de familles qui existent. Tout le monde n'est pas élevé par ses parents. Certaines personnes sont élevées par leurs grands-parents, par des personnes extérieures de la famille. Certains enfants ont un seul parent. Certains enfants ont des familles recomposées, des familles avec deux papas, avec deux mamans ou autres. Donc, on va aussi insister là-dessus. On va commencer à avoir ces premières conversations sur la diversité de genre et la diversité des orientations sexuelles.
Merci pour cette explication. Ça dure une heure, c'est ça?
Avec les maternelles, généralement, je vais dire 40 minutes.
D'accord.
Parce que je pense que j'ai jamais l'attention pour 55 minutes avec les élèves cet âge-là.
Oui, c'est ça. En grand groupe, je veux bien croire. Mais donc, pendant cette petite heure, dirons-nous, de quelle manière est-ce que les adultes se placent et comment ils se placent même physiquement, j'ai envie de dire, dans cet échange?
Généralement, c'est pendant les heures de classe. Donc, je suis avec les enseignants et les enseignantes qui sont présents. Quand c'est les tout-petits, comme les maternelles, là, généralement, on est tous soit sur des chaises, soit sur les petits tapis. Donc, on est un petit peu comme en arc de cercle, je veux dire. Et les enseignantes ou les enseignants sont simplement autour. Je pense que ça m'aide beaucoup d'avoir les enseignants et les enseignantes juste parce que quand j'ai des grands groupes, ça m'aide aussi à garder un peu le calme, hein, parce que c'est sûr que on va parler de parties génitales, on va parler de pénis, on va parler de vulve. C'est certain que de la maternelle à la 12e année, je vais avoir des élèves qui rigolent, voilà, que ça fait rigoler. Mais bien sûr, parce que ça fait rigoler tout le monde. On n'a pas l'habitude d'utiliser ces mots. Donc, j'ai besoin des enseignants et enseignantes qui sont là aussi pour ramener la classe. Puis, je pense que généralement, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les adultes qui étaient présents, sont très enthousiastes à l'idée de ces formations, d'avoir ces conversations qui se passent dans la salle de classe et ont hâte, je pense, de continuer ces conversations également.
Quels sont les retours que tu as d'ailleurs des personnels de l'éducation suite aux formations?
Je vais dire, c'est très, très souvent positif. Comme je disais, ils sont contents, ils sont contentes qu'on ait commencé ces conversations et de pouvoir avoir ces conversations de façon sans tabou. En fait, je pense qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir ces conversations sans tabou. J'en parle tous les jours, donc c'est vrai que j'ai plus le tabou. C'est beaucoup plus facile pour moi maintenant d'aborder ces conversations-là sans rigoler, sans devenir rouge, sans chercher mes mots, sans baisser le ton quand j'utilise certains mots. Donc d'avoir cet exemple qui est modélisé dans la classe, je pense que c'est très apprécié. J'essaye le plus possible d'être vraiment inclusive dans mon approche, donc d'être certaine que tous les élèves qui sont dans la classe se sentent concernés par ce dont on est en train de parler. Et une des façons dont je vais faire ça, c'est que quand on parle du corps, je vais essayer justement de dégenrer le plus possible. Donc, je ne vais pas parler de la puberté pour les garçons, la puberté pour les filles. On n'a certainement pas les classes qui sont séparées entre les filles et les garçons. Même avec les maternelles, quand on va parler des parties du corps, que je parle des poupées, ben, y a une poupée qui a une vulve, il y a une poupée qui a un pénis, et puis on va parler de leur partie du corps. Mais je vais essayer de dégenrer le plus possible le fait que ben, toutes les filles ont une vulve, puis que tous les garçons ont un pénis. Donc, de pouvoir modéliser ça aussi, de voir ça, généralement, c'est très apprécié. C'est certain que quelquefois, j'ai eu des enseignants ou des enseignantes qui disaient, ben, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice de langage d'essayer d'éviter de dire le mot fille, garçon, c'est comme une perte de temps, ça leur semblait. Mais pour moi, ça me paraît essentiel.
Pourquoi, justement?
Pour être certaine, comme j'ai dit, que tous les enfants dans la classe se sentent concernés. Parce que quand on va parler de puberté, même avec les plus jeunes, ils commencent à identifier, à construire leur identité de genre. Donc, j'évite de les mettre dans des boîtes. Il y a certains élèves qui vont chercher leur identité de genre, même avant la puberté, des enfants qui se posent la question de savoir, ben, est-ce que je suis une fille? Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis entre les deux? Genre, je sais ce qui est écrit sur mon certificat de naissance. Je sais ce que mes parents m'ont dit, mais c'est pas comme ça que je me sens à l'intérieur. Donc, le plus on va dégenrer la conversation, le plus on va être inclusif pour toute la classe, tous les élèves dans la classe. Alors, on peut me dire de « Ah, ben, je connais mes élèves, puis je sais qu'il n'y a aucun élève transgenre dans la classe. » On n'en sait rien. L'identité de genre, c'est quelque chose qui évolue au cours de la vie. Et puis, de détacher l'idée de sexe biologique avec les hormones, avec la puberté, avec les stéréotypes aussi, ça permet aux élèves d'avoir plus d'exemples aussi de ce qui est possible pour eux.
Tu parlais aussi qu'il y a une partie où tu rencontres les parents avant de voir les élèves. Je suis aussi curieuse de savoir bah, comment ça se passe avec les parents et quel retour est-ce qu'ils te font.
Alors, bah, avec les parents, ça se passe assez bien. Quand j'ai commencé, je me souviens que ça me donnait toujours beaucoup d'anxiété. J'avais toujours peur que, voilà, de faire face à une opposition des parents ou des familles. C'est vrai que comme c'est pas un atelier, bien sûr, qui est obligatoire, il n'y a rien qui est obligatoire pour les parents d'élèves ou pour les familles. Généralement, les personnes qui viennent assister à l'atelier, c'est des personnes que ça intéresse, qui ont envie d'être là, puis qui ont envie d'en apprendre. Donc, généralement, c'est des retours qui sont très positifs. Mais c'est certain que chaque parent, en fonction des écoles, en fonction de où je vais, en fonction de d'où est-ce qu'ils viennent aussi, ben, vont avoir des approches différentes ou des idées différentes de ce qui est à l'éducation à la santé sexuelle. Donc, dans les présentations que je fais aux parents, j'ai rarement une opposition pendant les présentations. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des salles de classe dans lesquelles il manquait la moitié des élèves. Parce que les parents n'avaient pas laissé l'enfant venir être présent à cette session ce jour-là. Donc, ici, en Colombie-Britannique, il y a, dans le règlement, ça dit que les parents ont le droit de ne pas laisser leurs enfants venir au cours de santé sexuelle. Ils ont le droit de retirer leur enfant du cours. Cependant, les parents sont censés, s'ils le font, l'enseigner eux-mêmes. Comme on le sait, comme tous les règlements ou les recommandations, que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique, dans d'autres pays, c'est rare qu'il y ait un suivi qui soit fait ou que les personnes connaissent bien le règlement. Donc, généralement, ces enfants ne viennent pas au cours de santé sexuelle. J'ai la moitié de la classe qui est présente, j'ai la conversation avec la moitié de la classe. Puis cette moitié de classe, c'est certain que le lendemain, elle va essayer de réexpliquer à la moitié de la classe qui n'était pas là ce qui s'est passé. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que les élèves qui n'étaient pas présents, bien, ils reçoivent de l'information qui a été pré-mâchée, puis réexpliquée, ce qui n'est généralement pas toujours la meilleure source d'information. Donc c'est certain qu'ici aussi, il y a toujours encore une opposition au cours à la santé sexuelle, de se dire que voilà, on va apprendre des choses que les enfants ne sont pas censés savoir, que peut-être qu'il y a un lobby pour essayer d'encourager les enfants à être actifs ou actifs sexuellement le plus tôt possible. Je ne sais pas exactement quel est. Il y a différents types de craintes, bien sûr, autour de ça. Ou la vieille idée de dire, ben, si on n'en parle pas, les enfants n'auront jamais aucune idée de ce qu'est la sexualité, puis ils vont l'éviter pendant plus longtemps. Bien sûr, on sait que ce n'est pas vrai. Hein. La puberté, ça vient avec beaucoup d'hormones et c'est ces hormones qui se chargent de cette découverte de la sexualité. Ce n'est certainement pas mon cours.
Tu parlais des enfants, des élèves que tu avais devant toi et qui pouvaient rire suite à ton intervention. Et donc, quelles sont les réactions des élèves lorsque tu abordes les différents sujets liés à leur corps et liés à cet apprentissage?
On a un peu de tout. De nouveau, le plus tôt je vais venir, je vois les différences dans les écoles qui me font venir depuis la maternelle, puis les écoles qui me font venir à partir de la cinquième. Généralement, on fait venir à partir de la cinquième parce que c'est la conversation sur la puberté, puis c'est à partir de ce moment-là que les enseignants ou les enseignantes ne sont pas forcément confortables d'avoir ces conversations. Quand je peux venir depuis la maternelle, c'est certain que les élèves vont rigoler généralement, maternelle en première année, mais on va passer au-dessus de ça. Une approche que j'ai, puis qui est assez populaire dans la province, c'est qu'au lieu de parler de santé sexuelle avec les maternelles, avec les premières, avec les deuxièmes, en fait, on va parler de science du corps. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait. On parle de comment fonctionne notre santé sexuelle et reproductive, ce qui fait partie, en fait, de la science de notre corps. Donc, j'arrive et puis on va parler de comment on peut être une bonne ou un bon scientifique du corps humain. Et puis, ça fait partie d'essayer de, oui, on peut rigoler, mais on essaie de pas se rouler par terre. Généralement, ces approches-là fonctionnent assez bien. La différence que je vois, c'est quand j'arrive dans les classes de cinquième ou de sixième année, puis que ces conversations n'ont jamais été abordées, que le mot pénis, que le mot vulve, que le mot vagin, que le mot érection, il n'a jamais été dit à voix haute, encore moins dans la salle de classe. Là, ben, il va y avoir beaucoup de rire, il peut y avoir de la gêne. Et parfois, ben, j'ai certains élèves qui sont clairement, clairement mal à l'aise, au point de se boucher les oreilles, de sembler d'être vraiment ben, en détresse. On voit que dans leur langage corporel, ils sont vraiment mal à l'aise, ou des élèves qui veulent sortir de la classe. Donc là aussi, on fait face à un vrai mal-être finalement, parce qu'on a compris que ces élèves-là, il y a tellement un mal-être quand on parle de ces sujets, ben c'est soit qu'éventuellement, il y a eu des problèmes d'abus auxquels ils n'ont jamais parlé, ou qu'on a fait de la sexualité, de la santé sexuelle, un vrai tabou depuis leur enfance. Et donc, ils comprennent que ben, on n'est pas censé parler de ça et qu'il y a une gêne maintenant qui est vraiment associée au fait de parler de santé sexuelle, de parler des parties du corps.
Est-ce que tu as déjà été devant des élèves qui avaient des fausses informations?
Il y a une situation que j'ai trouvée vraiment intéressante un jour avec une conversation que j'ai eue avec une éducatrice en petite enfance. Elle s'occupait des maternelles, prématernelles. Et je parlais de l'importance justement d'utiliser les mots scientifiques pour parler des parties génitales. Et cette éducatrice m'a dit qu'elle se souvient d'une fois où elle avait un des petits garçons qui était venu la voir et qui lui avait demandé « Tiens, maman me dit que j'ai une banane, mais c'est quoi en fait ?» Et elle s'est rendue compte que les parents à la maison utilisaient le mot « banane » pour parler du pénis de l'enfant. Et donc là, l'enfant, ben, un enfant, c'est pas stupide. Il a mangé des bananes, il sait c'est quoi une banane, puis il voit bien que ce qu'il a entre les jambes, c'est pas une banane. Donc déjà, l'enfant a bien compris que les informations qu'il avait reçues à la maison n'étaient pas des vraies informations. Donc là, déjà, il y a moins de confiance dans les informations qui sont données par les parents. Ce qui fait que là, il s'est retourné vers son éducatrice pour avoir accès à la vraie information, c'est quoi le bon nom pour mes parties génitales. Et donc là, il y a une possibilité d'avoir cette conversation, de dire, je comprends ce qui t'a été dit à la maison. En fait, le vrai mot, c'est un pénis, puis t'as un scrotum, à l'intérieur du scrotum, il y a des testicules. C'est vraiment important, de nouveau, pour la prévention des abus et pour les soins aussi, que les enfants utilisent les bons mots pour leurs parties génitales. Les parties génitales, c'est la seule partie, une des seules parties où on n'utilise que des petits mots, hein, le zizi, la zézette ou autre. On utilise ces mots, les enfants comprennent que du coup, on n'utilise pas le bon mot. Donc, c'est déjà quelque chose qui est différent du reste du corps. Mais aussi, si on n'utilise pas les mêmes mots que tout le monde, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cet enfant-là, s'il avait continué à penser que ce qu'il avait entre les jambes, ça s'appelait une banane, mais comment est-ce qu'il va parler des abus, éventuellement, si ça lui arrive? S'il doit aller parler à son éducatrice, s'il doit aller parler à un adulte de confiance, c'est-à-dire, ben, quelqu'un a touché ma banane. Pour moi, c'est pas une alerte en tant qu'éducatrice d'entendre ça. Ou même s'il s'est fait mal, éventuellement. S'il n'a pas le bon mot, comment est-ce qu'il peut exprimer ce qui se passe avec son corps? Donc ça, je pense que c'était un bon exemple de fausses informations, finalement, qui peuvent être dangereuses pour l'enfant.
Tout à fait. Ma question suivante, ça, on a déjà un peu répondu, c'est Quelles sont les difficultés auxquelles on peut se confronter lorsqu'on aborde ces sujets?
La difficulté, ça va être les enfants qui sont vraiment en détresse par rapport au contenu. Parce que on veut s'assurer qu'on leur donne l'information la plus inclusive et la plus qui enlève la majorité des tabous éventuellement. Mais on sait que c'est difficile à faire en une heure, en deux heures. Mon seul espoir quand je fais ce type d'intervention, même quand je vois des élèves qui sont en détresse, c'est l'idée du modèle des élèves autour d'eux. Donc de dire effectivement peut-être que eux sont en détresse, mais là maintenant on vient de modéliser le fait que c'était OK d'en parler. C'était OK d'en parler dans la classe, puis que les élèves autour d'eux, leurs camarades, en parlent également. Et donc, on commence à normaliser. Alors, ça va peut-être prendre plusieurs fois, mais au moins, ils savent qu'il y a un endroit, éventuellement, où ils peuvent poser leurs questions, qu'il y a des adultes en qui ils peuvent avoir confiance pour poser ces questions et puis avoir des conversations.
Lorsque j'étais enseignante, je proposais beaucoup de rondes et il y en a une où on citait les différentes parties du corps. Parce que dans le programme belge, on a aussi cette compétence d'apprendre les différentes parties du corps. Lors de cette chanson, j'ai des élèves qui me citaient les fesses et là, c'était toujours le moment super marrant de la ronde, on citait les fesses. Chacun touchait ses fesses parce qu'on touchait notre corps, on montrait la partie du corps sur nous-mêmes et on rigolait bien, ça prenait quelques minutes à rire et puis on continuait la ronde. Et il y a un jour où je me suis retrouvée avec le lendemain matin une parente qui était inquiète. Et donc ça, c'est toujours moi une situation que j'avais du mal à gérer, c'était les adultes qui viennent avec ce qu'ils ont entendu des enfants. Donc, on ne sait jamais trop ce que l'enfant a dit et on est devant un parent qu'on connaît en fait très peu parce que les parents, on les croise. Cette parente, elle voulait savoir ce qui s'était passé. Donc, lorsque je lui ai expliqué, elle avait vraiment cette grande crainte que l'on cite les parties du corps. Et je me suis un peu sentie mais dépourvue de moyens. Et donc, j'aurais voulu que tu me dises comment j'aurais pu réagir de manière à, je crois, rassurer et à la fois donner des informations pertinentes.
Ouais, je pense que c'est assez commun, en fait, cette peur. Je peux comprendre que les parents veulent savoir ce qui est dit. Puis de nouveau, comme on en a parlé au début, c'est l'idée qu'en tant qu'adulte, on va projeter pas mal de choses sur les enfants puis sur les craintes autour de la santé sexuelle, de la sexualité. Au final, quand je parle avec des éducatrices en petite enfance, des éducateurs en petite enfance, puis des jeunes parents, enfin des parents de jeunes enfants plutôt, je vais insister sur trois points. La première chose, ça va être la prévention des abus, comme on en a parlé, à partir du moment où les enfants ont le bon nom pour toute leur partie intime, leur partie génitale, leur partie privée, ils sont capables d'identifier les abus, d'identifier les douleurs, que ce soit à l'école ou à la maison. Aussi, ça donne du contrôle sur leur propre corps. C'est normal de pouvoir donner c'est des jeunes enfants qui aient le contrôle de savoir, je sais comment fonctionne mon corps et moi, je connais tous les bons mots pour mon corps. J'ai du contrôle sur mon propre corps, je sais comment mon corps fonctionne et je sais comment toutes les parties de mon corps s'appellent. Et pour moi, ça arrive au troisième point, c'est-à-dire que ça fait partie du droit de l'enfant de savoir comment son corps fonctionne et de savoir comment en prendre soin, de savoir comment le défendre. Donc, pour moi, c'est trois points qui me semblent essentiels, puis je pense qu'ils sont aussi importants pour les parents, de se dire, je veux que mon enfant reste en sécurité. On parle beaucoup de la prévention des abus avec, s'il y a quelqu'un, le méchant monsieur qui va te donner un bonbon avec un van blanc devant, oui, ça c'est certain qu'on veut faire cette prévention-là. Mais finalement, on sait que les abus, puis les abus sexuels sur les enfants, dans 90% du temps, ça va être des personnes de confiance, des personnes du cercle qui sont en contact avec l'enfant. Donc, l'enfant doit être capable d'expliquer, d'être en confiance aussi pour identifier ses abus, puis par aller reporter ses abus à un autre adulte ou une autre adulte.
Oui, oui, tout à fait. Et c'était assez déroutant pour moi parce que suite à cette conversation, dans la conversation, elle s'interrogeait sur le fait d'apprendre justement la masturbation aux élèves. Et donc, elle me dit « Ah, parce que j'ai entendu dire que les programmes à venir allaient apprendre aux élèves de maternelle la masturbation. »
C'est drôle parce que je pense pas qu'on doit apprendre à qui que ce soit la masturbation. En fait, on se rend compte que, comme j'ai dit, hein, y a la masturbation, puis plutôt dans l'enfance, il y a plutôt ce auquel on fait référence, c'est l'autostimulation. Donc, ça va être la découverte des parties génitales. Et généralement, ça va être non dans l'approche du plaisir, mais dans une approche d'apaisement, en fait, de se rassurer en tant que jeune enfant. Donc, c'est un comportement tout à fait naturel et normal pour l'enfant de découvrir ses parties génitales, de les toucher et de rendre compte que voilà, ça les soulage ou ça leur fait du bien. La seule conversation qu'on va avoir sur la masturbation, c'est de ne pas faire honte à l'enfant. Donc, si jamais, en tant qu'éducatrice, en tant que parent, on remarque que l'enfant est en train de se toucher les parties génitales au milieu du salon, dans la cour de récré, de pas engueuler l'enfant, de dire « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Fais pas ça, on fait pas ça ici, on fait pas ça comme ça, ça va pas. » Mais plutôt dire « Ok, mais je comprends que tu as envie de découvrir ton corps, c'est une bonne chose que tu découvres ton corps, cependant, ça, c'est quelque chose qui se fait dans un endroit qui est privé. » Puis on va identifier les endroits privés. À l'école, il n'y a pas d'endroit privé, donc on va pas toucher son corps à l'école. À la maison, c'est quoi un endroit privé? Ça peut être le salon, ça peut être ma chambre, si ben dans ma chambre, je suis tout seul, je suis toute seule, ou dans le bain, si je me retrouve tout seul. Donc ça, on va identifier juste les endroits qui sont appropriés pour découvrir leur propre corps. Mais c'est certain qu'on ne va pas leur donner une explication de comment ça fonctionne. De nouveau, généralement, il n'y a pas besoin, c'est quelque chose d'assez inné de découvrir son corps soi-même.
Oui, je pense aussi, et rien qu'en effet, de ne pas comme diaboliser la masturbation, c'est je crois aussi que ça pourrait permettre tellement de se simplifier la vie par rapport à la déconstruction à faire après, quoi.
Bien sûr, parce qu'il y a encore tellement de tabous autour de la masturbation, et encore plus la masturbation, je veux dire, la masturbation féminine, ou en tout cas la découverte de la vulve, du clitoris, du plaisir qui est associé à ça. Je pense qu'une autre crainte aussi avec la masturbation, ça va être, surtout avec les plus petits, l'idée de, vers 4-5 ans, les enfants vont jouer au docteur. Et donc, découvrir, essayer de, voilà, je te montre moi ce que j'ai entre les jambes, si toi tu montres ce que j'ai entre les jambes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? De nouveau, c'est pas parce que les enfants sont des pervers de la cour de récré. C'est simplement parce que ces enfants sont curieux de comprendre comment fonctionne son corps. Et à quoi ressemble le corps des autres? Ils ont bien compris qu'ils ont un corps qui ressemble à quelque chose, et puis qu'il y a certains enfants qui ont un corps qui est différent. Peut-être qu'ils l'ont vu dans la famille parce que, on a peut-être vu nos parents se promener sans vêtements. Peut-être que on prend des bains avec certains parents et donc on voit les parties génitales dans notre famille. Mais on est aussi curieux de savoir, qu'est-ce qui existe, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc c'est tout à fait normal pour les enfants d'être curieux ou d'être curieuse. Le nouveau, le plus tôt on va en parler, le plus tôt on va expliquer les différences, le moins ils vont être curieux d'aller lui chercher l'information sur le corps d'une autre personne, parce qu'on aura simplement expliqué que oui, certaines personnes ont une vulve, oui, certaines personnes ont un pénis.
Et alors, concrètement, d'après toi, quelles activités est-ce qu'on peut mettre en place dès l'école maternelle pour parler du consentement?
Le consentement, généralement, je vais en parler en parlant de la différence entre les touchers appropriés et les touchers inappropriés. Parfois, on entend aussi le mot « les bons touchés » et « les mauvais touchés ». Je vais expliquer un peu pourquoi je préfère utiliser le mot « approprié » et « inapproprié ». Donc, d'identifier que oui, il y a certains touchés qui sont appropriés, c'est-à-dire que, par exemple, on a parlé tout à l'heure, faire un câlin ou faire un high five ou se pousser quand on est sur les balançoires, etc. Alors, il y a des touchés appropriés que nous, on n'aime pas. Toutes les personnes n'aiment pas recevoir un câlin, faire un massage, etc. Et puis, il y a les touchés inappropriés. Donc, comme on a parlé, c'est de toucher les parties intimes, les parties privées qui sont des touchés inappropriés. On fait la différence avec les bons et les mauvais touchés parce que, de nouveau, s'il y a un toucher inapproprié qui est fait par un adulte de confiance ou une adulte de confiance, ça ne va pas forcément être identifié comme un mauvais toucher pour l'enfant. Peut-être que c'est un toucher qui fait du bien parce que ça vient d'un adulte en lequel on a confiance. Donc, on évite d'utiliser le mot bon et mauvais, mais plutôt approprié et inapproprié. Et puis, avec les petits aussi, comme j'ai dit, on va identifier ben, que, oui, parfois, certaines personnes ont envie de faire un câlin, certaines personnes aiment bien faire un bisou, certaines personnes aiment bien les massages, tout le monde n'aime pas ça. Donc, on va demander avant de faire un bisou, avant de faire un câlin, avant de faire certains jeux. Une bonne façon pour les éducatrices, les éducateurs, puis les enseignants. Un exemple que j'aime bien, c'est offrir les différentes façons de dire bonjour le matin. Je pense qu'il y a, quelques vidéos sur Internet que j'ai vues avec des enseignants qui donnent l'option aux enfants le matin d'il y a 4 façons dont ils peuvent dire bonjour. Alors, soit on peut faire bonjour avec la main, soit on peut faire, je pense que c'est un câlin, soit on peut faire un high five, soit on peut faire une danse. Et donc, chaque enfant pouvait décider la façon dont il voulait dire bonjour le matin. Donc, on va aussi être un modèle en tant qu'adulte, montrer ce modèle de consentement puis de respect. Vraiment utiliser le jeu aussi le plus possible. J'en parle beaucoup avec les familles, avec les parents. Par exemple, parler du consentement à travers le fait de chatouiller. Je pense qu'en tant qu'adulte, on aime bien chatouiller puis c'est quelque chose de drôle. Les enfants aiment bien quand on chatouille. Puis c'est un jeu qui peut être drôle pour les adultes et pour les enfants. Cependant, on utilise ce jeu aussi pour dire, à partir du moment où tu me dis stop, j'arrête. Donc, je vais te chatouiller. Dès que tu me dis stop, je vais arrêter de te chatouiller. Et puis, on fait faire la même chose à l'inverse. Tu peux me chatouiller, puis quand je dis stop, t'arrêtes. Et à chaque fois qu'on arrête, de dire merci d'avoir arrêté quand je t'ai dit stop. Et puis que l'enfant remarque que quand il dit stop ou qu'elle dit stop, on arrête aussi. Donc, on va modéliser ce consentement. On peut aussi en parler dans la cour de récré quand on voit que certains élèves font certaines choses sans demander la permission, de dire est-ce que tu as demandé à, je sais pas, la petite Julie, si tu avais le droit de faire un câlin, ou est-ce que tu as demandé à tel enfant si c'était OK de faire ce jeu-là, de se toucher. Donc, on va en parler constamment, d'amener ces conversations du consentement, que c'est OK d'avoir nos limites et c'est OK de changer d'avis aussi. On peut avoir envie de faire un câlin un jour, on n'a pas envie de faire un câlin tous les jours. Donc, on va amener ces différentes conversations sur le consentement dès le plus jeune âge.
Tout à fait. Et une des réactions auxquelles je pourrais m'attendre si je travaille le consentement avec les élèves, ce serait peut-être où s'arrête la notion du consentement et du « on laisse tout faire ».
Je trouve qu'avec le consentement, bien sûr, on va modéliser le consentement, c'est-à-dire que oui, on va demander à l'enfant ce qu'il préfère dans certains cas. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, en tant qu'adulte responsable, on ne peut pas toujours donner le choix. On ne va pas donner le choix à l'enfant de consentir à se laver tous les jours, parce que sinon l'enfant ne se laverait jamais, ou de laver ses dents. Bien sûr qu'il y a certaines choses qu'ils sont obligés de faire tous les jours. Une bonne approche pour ça, il y a certaines choses à faire, on peut juste choisir dans quel ordre on va les faire. Avec les tout petits enfants, quand je pense par exemple au fait de changer la couche ou de s'habiller, de changer les vêtements, où on doit vraiment assister l'enfant puis on doit le faire nous-mêmes. Les enfants n'ont pas toujours envie de changer la couche, ça peut être un moment qui est difficile. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est forcé sur l'enfant. C'est d'expliquer ce qu'on est en train de faire, de dire OK, ben là, on va changer la couche, là c'est ce que je suis en train de faire, là ben je vais nettoyer autour de ta vulve, je vais nettoyer autour du pénis, je vais nettoyer les fesses. On va utiliser les mots quand l'enfant est en train de développer ses capacités langagières. Pareil pour le bain, si on assiste l'enfant avec le bain, on assiste l'enfant ben, pour s'assurer bien sûr qu'il ne soit pas en danger. On va lui demander, ben, est-ce que là, il faut laver son pénis ou on va laver ses fesses? Est-ce que tu veux le faire tout seul ou est-ce que tu veux de l'aide? Okay? Donc là, on peut aussi de nouveau montrer qu'il y a l'option. L'enfant a le droit de choisir ce qu'elle veut faire et peut demander l'assistance au nom d'un adulte. On ne va pas juste le faire nous-mêmes en disant, bon là, il faut qu'on y aille puis de prendre le contrôle. Après, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Merci pour ce conseil. Pour finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent?
Oui, alors il y a un site que j'ai découvert, je pense, l'année passée, qui est une ASBL belge, qui s'appelle Oh Yes ASBL, qui a développé tout un programme qui s'appelle Moules Frites. Alors, ça s'adresse plus aux élèves, je pense, du secondaire, puis des plus âgés, mais c'est toutes des mini-vidéos sur l'éducation à la santé sexuelle, puis plein de sujets. Et comme je disais, je pense que de pouvoir déconstruire, d'en apprendre plus en tant qu'adulte sur la santé sexuelle, la santé reproductive, comment ça fonctionne, c'est une première étape aussi pour nous décomplexer puis enlever les tabous par rapport à ça. Sinon, un autre bon plan, un livre que je prends avec moi à chaque fois que je me déplace dans des écoles, surtout dans les écoles dans lesquelles il y a des maternelles de première année, deuxième année, c'est un livre qui s'appelle « De quoi sont faits les bébés ?» par Cori Silverberg. C'est un livre qui était en anglais, mais il a été traduit en français. Il est extrêmement bien fait. C'est une explication toute simple de comment sont faits les bébés. Je pense que d'utiliser les livres à la maison, dans les salles de classe, ça peut commencer les conversations.
Moi, comme bon plan, aussi dans ce thème-là, j'avais envie de proposer Le Petit Illustré de l'Intime, qui est écrit par Tiphaine Dieu-Mégard et Mathilde Baudy. Je pense que ça, c'est vraiment des petits bijoux à avoir dans sa bibliothèque.
Complètement, ils sont super bien faits. Je pense que oui, c'est ça. Il y a le troisième volume, il va y avoir un quatrième et un cinquième volume qui sont prévus, je pense. Belles illustrations, extrêmement bien faites, une bonne façon de commencer les conversations sur les différents types de parties du corps, puis les parties intimes.
Et alors, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que j'avais beaucoup, beaucoup de questions, mais un des bons plans aussi, c'est de consulter ton site internet. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve sur celui-ci?
Oui, alors mon site internet, c'est yestest.ca et je propose des ateliers pour les écoles principalement ici en présence, mais j'en propose aussi en ligne. Donc, j'ai une série d'ateliers qui sont adaptés en ligne pour faire venir les ateliers dans les salles de classe. J'ai beaucoup de présentations qui sont faites pour les parents aussi. Donc, s'il y a des parents que ça intéresse d'en apprendre plus sur le développement sexuel des enfants entre 0 et 5 ans, comment parler de la puberté, comment parler de la sexualité et les médias, j'ai des formations là-dessus. Et puis, à partir de l'été 2022, je vais commencer plus les formations en ligne aussi pour les éducateurs, les éducatrices, en fait, les professionnels de l'éducation pour savoir comment aborder ces sujets dans la salle de classe, pour aborder ces sujets avec les jeunes. Donc, si les personnes qui nous écoutent, ça les intéresse, je pense que le lien sera disponible, mais vous pouvez aussi me contacter directement par courriel à tess@yestess.ca.
J'écrirai tout ça en descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, Tess, pour ton intervention.
Merci, Alison.
C'était le 15e épisode de Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Tess pour cette conversation. J'étais ravie de pouvoir échanger avec elle sur ce sujet. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et TikTok. Mais surtout, je vous conseille de consulter son site internet pour plus d'informations. C'est yestess.ca. Toutes les infos sont bien sûr écrites en descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter l'épisode suivant le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous aimez le podcast, pensez à lui donner 5 étoiles sur Spotify et iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Parlez-en autour de vous. Merci beaucoup et puis à bientôt.